à tous et à toutes et bienvenue au podcast de GameInfo. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Pixel.
Ah, les absents, ils ont toujours tort, il paraît, hein.
C'est ça. Et de Morren.
Salut à tous.
Alors Morren, les vacances chez les British, c'était bien?
C'est toujours bien les vacances chez les British, mais j'ai réussi à ne pas acheter de Switch. Mon porte-monnaie en est content.
Oui, mais est-ce que quand Mario Odyssey sera sorti, tu résisteras à la tentation, mon cher Morren?
Non, l'idée c'est de l'acheter en bundle en espérant qu'il y ait un bundle Mario Odyssey avec la Switch le 27 octobre.
Bah écoute, on comptera sur toi pour faire un test.
Avec plaisir.
Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera d'un mod pour Skyrim. On enchaînera ensuite sur un remake amateur, entre guillemets, j'insiste sur les guillemets, de Tomb Raider 2. On évoquera également Nintendo qui adore les indépendants. D'ailleurs, il y a une annonce d'un certain jeu, de plusieurs jeux, n'est-ce pas, qu'on évoquera tout à l'heure. On parlera, mon cher Morren, de la catastrophe Ark Survival Evolved. Ça y est, il est sorti. On enchaînera ensuite sur l'AVR, où en est le front, n'est-ce pas? Et enfin, on terminera sur Sonic Mania, qui est sorti sur PC et qui avait quelques petites surprises désagréables pour nous autres joueurs PCistes. Et enfin, mon cher Pixel, nous évoquerons le jeu du moment, un jeu sur lequel tu as passé une vingtaine d'heures. Ce jeu, c'est Next Day Survival.
C'est un jeu russe.
Voilà, un jeu bien russe comme on les aime. Donc, mon cher Pixel, tu vas garder la parole. Nous allons commencer là tout de suite maintenant avec un mod pour Skyrim qui s'appelle Vigilante.
Ouais, alors moi, comme on en a parlé en off, Skyrim, il veut pas mourir.
Ouais, il y a une version VR qui vient sortir, là, voilà. Il y a des rééditions, t'as la version Switch, il veut pas crever ce jeu, c'est pas possible.
Ce jeu, il veut pas crever parce que c'est une poule aux œufs d'or hein, pour les développeurs, mais c'est aussi une source intéressante de mods pour les modeurs et pour les joueurs. Mmh. Et là, j'ai découvert, alors je n'y ai pas encore joué, mais je vais m'y atteler très très rapidement, il existe un mod Dark Souls pour Skyrim.
Avec des changements de gameplay dedans, hein. Vous aurez pas le gameplay de Skyrim avec. Hein.
Voilà, c'est un jeu, on pourrait dire presque une totale conversion, quoi. Il y a 4 épisodes contenant 10 quêtes au total. Alors, graphiquement parlant, ça ressemble vraiment à l'univers de Dark Souls.
Avec quelques différences quand même, enfin, en termes de rendu, quoi, ils ont fait leur propre patte, on va dire.
Ils ont fait leur propre patte, bien sûr, et ils ont rajouté des choses qui n'existent pas dans le monde de Dark Souls, mais qui pourraient faire Dark Souls.
Ils sont amusés, quoi.
Dans l'esprit. Bon, vu que c'est sur Skyrim, graphiquement, ça commence à dater, ça commence à faire un peu vieux. Les animations sont un poil rigides, mais ça, c'est à cause de Skyrim.
Tu veux dire qu'elles sont fidèles à Dark Souls?
Ouais. Non, elles sont fidèles à Skyrim. Elles sont fidèles à Skyrim. Non, Dark Souls. Ouais, c'est vrai que Dark Souls, elles sont un peu...
Le premier quand même, si.
Ouais, elles sont un peu rigides. Surtout que Dark Souls, je me le suis refait cet été. Donc, c'est vrai, je dois l'avouer, elles commencent un peu à dater les animations. Elles sont un peu rigides. Mais... Voilà, il existe un trailer, on va le mettre dans la description du podcast.
Bah, je vais
aller
même
voir.
Essayer de trouver la page de Nexus où il doit être pour vous mettre le lien vers...
Voilà, ouais. Parce que le téléchargement, c'est sur le fameux site Nexus Mod, qui regroupe des plus gros mods, des jeux les plus populaires de ces 10 dernières années, et même plus. Si vous n'avez pas encore un compte sur Nexus Mod, allez-y, c'est gratuit. Et vous pourrez télécharger des centaines, des milliers de mods, de textures, d'armes, de tout ce que vous voulez pour vos jeux préférés. Et rien que en regardant la vidéo, les développeurs se sont fait plaisir et ça mérite.
Il y a quand même des doublages professionnels, quoi. Enfin, c'est pas un petit mod comme ça juste pour rigoler. Il y a un vrai taf derrière. Bon, après, je t'avoue que moi, je suis pas plus curieux que ça du truc, mais je respecte la démarche en tout cas. Et ça fait toujours plaisir de voir des gros projets de mod. Il y en a un autre récemment qui est sorti, par exemple pour Fallout New Vegas, qui est Project Brazil. Qui est une espèce de préquel, en fait. Bref, ça fait d'autant plus plaisir que il y a pas longtemps, Bethesda a sorti son Création Club, alias les modes payants, même s'il le nie. Hein. Non, c'est pas des modes payants, c'est petit DLC payant, voilà. Mmh. En plus, ils avaient dit que ah oui oui non mais les mods qui existent déjà, ils seront pas dans le Création Club. Ben c'est raté parce que par exemple, tu retrouves des équivalents des mods qui sont disponibles en gratuit en moins bien en fait. Genre t'as des Power Armor pour Fallout 4. La version gratuite est 10 fois mieux que la version payante. Ils réessayent encore une fois de faire des modes payants en prétendant ne pas faire des modes payants, ce que personne n'hésite et on sait que vous foutez notre gueule. Donc voilà, Bethesda, votre Création Club, c'est une honte. Et puis voilà, c'est tout.
Ouais, voilà, bah, moi pour conclure, je dirais que bah, allez au moins voir la vidéo. Mm. Histoire de voir un peu le travail qui a l'air d'avoir été un peu titanesque quand même.
Ouais.
Les décors sont immenses. On a des ennemis qui viennent de Dark Souls. Il y a des boss qui sont complètement créés de toutes pièces, mais qui font très Dark Souls quand même dans l'esprit. Et rien que pour respecter un peu leur travail, allez voir au moins la vidéo.
Écoutez, c'est gratuit. C'est pas comme les armures de Bethesda à 2€. Voilà. Donc rien que pour ça, ça mérite d'aller jeter le coup d'œil. Respect les gars, bravo pour le taf. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est toute la partie doublage, etc. Faudra qu'un jour on fasse un best-of des modes de Skyrim, tiens. Bon, allez, on va enchaîner, mon cher Manren, sur un autre projet amateur entre guillemets.
Ouais.
Et ce projet, c'est le remake de Tomb Raider 2 fait sur Unreal Engine qui s'appelle The Dagger of Xen.
Ouais, c'est disponible depuis là, cette semaine, en téléchargement. Il y a eu tellement de ramdam autour de cette démo que voilà, certains liens sont un peu capricieux.
Bah, on a dépassé la limite de téléchargement de ces liens, donc ouais. Il faut patienter.
Il faut patienter, et je pense que on sera tous les deux d'accord pour dire que ça vaut le coup de patienter.
Parce que c'est une putain de franche réussite, quand même.
Ouais, ouais, c'est une franche réussite. Alors, en fait, il y a une... C'est une zone à peu près, bon, comprise entre une heure et une heure et demie de jeu. C'est une zone d'intro, hein, clairement.
Bah, en gros, si vous mobilisez pas et que vous allez en ligne droite, je pense que ça prend 45 minutes.
Ouais, probablement.
Moi, il m'a fallu une heure parce que j'ai un peu mongolisé, mais à côté de ça, j'ai pas trouvé tous les secrets, hein, donc voilà.
Moi, j'en ai trouvé 1/3. Et donc ça m'a pris ouais peut-être un peu plus d'une heure. Bon, en l'occurrence, j'ai jamais joué à Tomb Raider 2. Donc du coup, j'avais pas d'automatisme. Mais en tout cas, bon, évidemment, on va parler de ce qui est l'évidence, c'est très très propre comme remake visuellement, mais aussi en termes d'animation, en termes de gameplay.
Ah, parce de que, gameplay surtout, parce que alors moi je peux dire par contre Tomb Raider 2 en l'occurrence, c'est un jeu dont je me souviens très bien parce que c'est un des rares jeux que j'ai fait entièrement avec mon papa.
Ouais.
Et j'ai une mémoire musculaire, si tu veux,
ouais.
Du gameplay de Tomb Raider 2 qui était une putain de catastrophe. Ouais. Non, mais après, pour l'époque, c'était cool, hein, entendons-nous bien. Mais on va dire que aujourd'hui, il y a des trucs que ça passe plus, quoi. Les caméras, le fait, tu sais, de jouer avec le D-pad au lieu de jouer avec le stick analogique, parce qu'il n'y avait pas de stick analogique à l'époque, sur les PlayStation. Et tu sais, à chaque fois qu'il fallait faire un saut, il fallait genre, tu te mettais au bord du truc, tu faisais un bond en arrière pour bien te caler, puis tu prenais ton élan et puis tu sautais. Enfin, c'était... C'était
puis
très pénible,
un
et là...
C'était assez peu précis aussi dans la direction...
Ouais,
où il fallait que tu mettes tes souhaits, donc ça donnait quelque chose d'assez peu spontané au final. Tu arrêtais Lara et tu la faisais tourner dans la direction que tu voulais. C'était assez étrange. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est complètement effacé dans ce remake.
Alors, pour faire simple, vous avez joué à Tomb Raider Anniversary, ça ressemble beaucoup.
Oui, c'est
et
vrai.
Franchement, le gameplay d'une fluidité, j'ai été extrêmement étonné. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a... Au-delà des graphismes, parce que c'est vrai que, bon, les graphismes, c'est beau, tout ça. Le mec a du talent, c'est incontestable. Seul petit reproche, je trouve que la modélisation de Lara... Enfin, j'ai l'impression de jouer un mutant. C'est-à-dire qu'il a voulu respecter le design de l'époque. Je suis sûr que c'est intentionnel. Hein.
Oui,
je suis persuadé que c'est
intentionnel,
mais il a voulu respecter les proportions entre guillemets de Lara de l'époque, c'est-à-dire un énorme coffre, dirons-nous, une taille de guêpe. Mais quand je dis de guêpe, enfin c'est plus un bâtonnet, quoi, on va dire, un énorme fessier, des jambes toutes fines, des bras tout fins. Enfin bref,
c'est vrai qu'aujourd'hui ça passe plus.
Bah c'est surtout que Moi, je m'en fous. Hein. Je parle même pas du côté sexy, machin, des trucs. C'est juste que j'ai l'impression de jouer un monstre difforme, quoi. Avec un moteur d'aujourd'hui, ça fait pas être humain, quoi. Ça fait poupée gonflable, tout simplement. Ouais. Mais en dehors de ça, techniquement, certes, c'est impressionnant, mais c'est surtout vraiment la qualité de la prise en main.
Ouais.
Ça passe tout seul, Lara elle s'accroche où il faut. Peut-être un petit reproche, c'est que par moment, tu sais, pour savoir où tu peux t'accrocher, etc.
Ouais.
Comme le décor fait très naturel, c'est pas toujours très visible, pas toujours, mais je veux dire, la progression est quand même assez fluide, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne. Et j'ai passé un excellent moment, quoi.
Ouais, ben tu vois, en l'occurrence, il y a une zone particulièrement où je savais plus où aller. Et c'est parce que j'ai pas réussi à détecter qu'il y avait un endroit où je pouvais sauter.
D'accord.
Après, juste un tout petit bémol, c'est dans les endroits un peu cloisonnés, quand t'es dans des espèces de tours sur la muraille de Chine, en fait, la caméra a un peu de mal parce que t'es assez serré.
Ouais.
Mais en dehors de ça, c'est très, très, très
méchant,
très
ceci dit. Hein.
Rien de méchant. Vraiment, c'est hyper agréable à jouer et ça fait plaisir de voir une qualité... à ce point-là, et vraiment une réévaluation aussi de gameplay, parce que c'est bien de faire quelque chose de plus joli avec les moyens qu'on a aujourd'hui, mais de reprendre le gameplay quasi à zéro, c'est assez impressionnant.
Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est tout ce qui fait avec les possibilités des moteurs d'aujourd'hui, notamment le moteur physique, où des fois, t'as le sol qui s'effondre, par exemple, c'est génial, quoi. T'as vraiment l'impression d'être Indiana Jones.
Ouais.
Je trouve qu'il réussit à être fidèle à l'esprit de l'original, sans faire un copier-coller, parce que par contre, je vous préviens, c'est pas, on va faire le même jeu, sauf que ça va être avec des graphismes d'aujourd'hui, pas du tout. Il y a des trucs du premier niveau qui manquent du Tomb Raider 2 de l'époque, notamment les pics, notamment les espèces de rochers qui roulaient dans tous les sens et tu te faisais écraser. Ça, ça y est pas. Mais par contre, il y a un passage qui est 100% inédit avec un puzzle qui coule sur la fin de la démo. C'est mon passage préféré de la démo, personnellement, parce que j'ai trouvé que le level design, c'est là où il brille le plus, en fait.
Ouais.
Donc, voilà. J'ai passé un très, très bon moment. Très impressionné par la jouabilité, par la fluidité du truc. Il y a quelques petits défauts sur la lisibilité par moment, mais rien de bien méchant et qui ne saurait être corrigé plus tard. Je rappelle que c'est un projet qui avait reçu l'aval de Crystal Dynamics. Alors, j'espère que c'est pas juste un employé de chez Crystal Dynamics qui a pris des libertés, qui en a pas parlé à sa hiérarchie avant. Bon, après, je sais pas si le projet arrivera à bout un jour, hein, parce que là, bon, c'est une heure de démo. Je pense que le mec, il peut s'arrêter là et chercher un boulot dans l'industrie avec ce qu'il a fait, déjà.
Il y a toute une petite équipe hein, autour, quand même.
Oui, parce que en gros, c'est un gars, vraiment, qui a plein temps sur le projet. Mmh. Et quatre autres personnes qui viennent l'aider sur certains points.
Mmh.
Et plusieurs QA-testeurs qui ont dû faire un super boulot, parce que pour le coup, la démo est vraiment très propre, je trouve. En tout cas, moi, j'ai pas eu de bug particulier. C'est vraiment très, très propre, quoi. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est beau.
Ouais.
Vous verrez la vignette de cet épisode, ce sera le jeu, et franchement, il est très 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 joli. Bon, par contre, ah oui, aussi petit bémol, je trouve que, bon, c'est l'Unreal Engine, et ça se voit parce que il se lâche un peu sur certains effets de lumière de l'Unreal Engine. Et genre, tellement. Tu sais, c'est le mec, il va, quoi. Il secoue la bouteille de gaz, et puis il ouvre, et puis ça part dans tous les sens.
Ouais. Et c'est marrant, hein, mais... ça me permet aussi de me rendre compte à quel point ça ne sert à rien, les gunfights dans ce genre de jeu. Parce que clairement, des petits ennemis qu'on a pu voir dans cette heure de jeu, je me suis dit, en fait, les mecs, c'est pas la peine, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'explo et puis les petits puzzles que vous avez à me proposer. J'ai pas envie d'avoir des coupes de gameplay juste pour aller tuer des araignées ou des tigres, quoi.
Bah, surtout que là, en plus, le système de gunfight, pour le coup, il est assez old school. Hein.
Oui, clairement.
Ça fait très... PlayStation 2, début des TPS, quoi.
C'est ça.
En tout cas, une très très belle surprise. Je vous mettrai le lien vers le site.
À tester.
À tester. Si un jour ça aboutit, ce dont je doute, très honnêtement, parce que il a un souci du détail qui est assez bluffant, je trouve, en tout cas. Ça devrait être un excellent remake et je trouve qu'il n'y a pas à rougir face à une production professionnelle. Bon, il y a quelques petits défauts comme ça, mais rien, encore une fois, qui ne saurait être corrigé. Bon, on va enchaîner, mon cher Morvan.
Mais oui, on enchaîne. On enchaîne sur la présentation Nintendo Direct des Nindies, comme ils les appellent. Donc, c'est les indépendants chez Nintendo. C'est une présentation d'un peu plus de 20 minutes qui nous propose notamment un certain nombre d'exclusivités consoles, d'exclusivités tout court et d'exclusivités temporaires. Et donc du coup, ça donne un espèce de petit line-up assez intéressant pour la fin d'année et pour 2018. Alors évidemment, on va commencer par une des grosses annonces, d'ailleurs qui commence ce Nintendo Direct, c'est Super Meat Boy Forever, qui va arriver en premier sur Switch en 2018, et ça c'est plutôt notable. Évidemment une exclusivité temporaire, mais c'est aussi le fait que voilà, c'est une exclusivité temporaire de poids.
Ouais, chez les indés en tout cas c'est un gros, et puis surtout il est vivant quoi, putain.
C'est vrai.
Depuis le temps qu'il avait été annoncé, on se demandait où ça en était quoi. Bah, en tout cas c'est très joli.
Oui, c'est vrai que c'est encore plus cartoon.
Oui, ils ont renforcé, tu sais, le côté cel shading en appuyant sur les traits noirs de contour, etc. Ouais.
Je trouve ça très
D'ailleurs,
joli.
Je rappelle, donc Super Meat Boy Forever, le concept, c'est que là, pour le coup, ce sera des niveaux générés procéduralement. Oui. Il ressemble beaucoup plus à un runner, je trouve, cet épisode-là.
Ah oui, oui. Et à savoir que plus vous referez le même niveau, plus il deviendra dur.
Parce que c'était pas déjà assez dur à Super
Meat Boy. Voilà. Hein. En tout cas, c'est ce qui a été évoqué dans cette présentation. Donc, à voir ce que ça va donner. J'imagine qu'il y a quand même un point, un point final à la difficulté du truc, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais ça promet d'être assez drôle.
Sinon, il y a des vraies exclusivités aussi.
Il y a des vraies exclusivités, absolument. Un jeu 2D qui s'appelle Dragon Marked for Death, qui est un action RPG, qui pour le coup est très très old school dans son visuel.
Alors pour le coup, celui-là, il m'amène une réflexion parce que c'est un jeu DS à la base. Enfin, non, un 3DS, jeu 3DS, ouais. Voilà. Et le fait qu'il ait switché sur Switch, ben ça en dit long à mon avis sur les projets de Nintendo vis-à-vis de la 3DS. Surtout que je rappelle que récemment, on a appris que le Miiverse allait être coupé, et pas seulement sur Wii U, mais aussi sur 3DS. Et le fait que, tu sais, t'as toutes ces annonces-là qui arrivent en même temps, je me dis, ça y est, ils sont en train petit à petit de débrancher discrètement la 3DS.
It's time.
Voilà.
Ouais, c'est clair.
Et il y a d'autres exclus aussi, il me semble.
Ou alors, une autre un peu moins marquante, c'est Golf Story. Donc, comme son nom l'indique, c'est un jeu de golf qui sortira en exclusivité sur Switch, et ça sera lancé en septembre. Voilà, alors sur tout ce qui est temporaire, on va avoir du SteamWorld Dig 2, parce que ça arrivera sur PS4 et sur PC après. On a l'arrivée de Kentucky Route Zero TV Edition, donc là ça arrivera ensuite sur PS4 et Xbox One. Et exclusivité console, donc c'est-à-dire que ça arrivera sur PC, on a Yono and the Celestial Elephants, qui a l'air d'être un jeu avec un petit éléphant plutôt mignon. Je sais pas exactement en quoi ça va consister, mais en tout cas visuellement c'est plutôt cool. On a Polybridge, qui arrive fin 2017 aussi, exclusivité console, et Murphy's Law, qui est un jeu multijoueur 4v4, si j'ai bien compris, qui est super chelou au niveau visuel. L'idée, en fait, c'est que chaque joueur, quand il tire sur un autre joueur, il va prendre la masse corporelle de l'endroit où il tire, il va se la mettre à cet endroit-là, sur son personnage. C'est vraiment super bizarre, c'est-à-dire que si tu lui tires sur sa tête, lui, sa tête va rétrécir et la tienne va gonfler. Très étonnant, mais regardez le trailer pour vous rendre compte, je sais pas du tout ce que ça va donner. One more step, and you're dead. It's too late. Now you're screwed, old man. You wanna play? Let's play. Bring it, nerd. Hey, you're dead. Hold on. Wait for a long time. There's a new generation of humans out there. Let me at least introduce myself. Grab it, gotcha. You murdered my dog. Don't pretend you forgot. Now you're just gonna confuse people. They need to know about the most hardcore assassin in video games. You bastard!
trying to butter up the gamers. Your fight is here in the real world. Nice work, Mickey Man. The Death Drive Mark II. The Phantom Game Console. So this is where it's been hiding.
On va terminer évidemment avec le clou du spectacle qui est Travis Strikes Again, No More Heroes. Enfin!
Finally! Désolé pour vos oreilles, les auditeurs.
Ouais. Donc, un jeu évidemment réalisé par Suda51, ça sortira en 2018 et c'est développé sur Unreal Engine 4. Voilà. L'alignement des planètes, ça sort sur Switch et ça a l'air vachement cool.
Enfin, l'idée. Si j'ai bien compris, ce nouveau No More Heroes, il y a un partenariat avec plein de studios indés, notamment ouais. ceux qui ont fait Shovel Knight, notamment Yacht Club Games, notamment ceux qui ont fait Hotline Miami,
ouais.
et d'autres. Et en fait, Travis et le père de, je crois que c'était Bad Girl, il me semble,
ouais.
dans le No More Heroes original qu'on avait tué, donc, qui vient la venger, n'est-ce pas? Il se retrouve enfermé dans une espèce de console magique qui les envoie dans les mondes de ces jeux indés, en fait, tout simplement. Et Travis va devoir botter le cul de certains boss de ces jeux, voilà.
Ouais.
Et attention, c'est un vrai No More Heroes, hein, parce qu'au départ, j'ai eu un peu peur que ce soit un, tu sais, un genre petit jeu indé qui reprendrait les graphismes de ces jeux-là. Non, non, c'est un vrai No More Heroes, sauf que ils vont reprendre ces jeux à la sauce No More Heroes, quoi. Et j'ai hâte, très très hâte de voir ça, quoi.
Je trouve ça dingo, mais comme concept, bien sûr, mais aussi le fait que voilà, putain, cette licence revient. Et moi, c'est vraiment des deux jeux qui avaient été des highlights de ma carrière, entre guillemets, sur Wii. Et je suis très content de voir ça arriver sur Switch. Et ça a l'air tout aussi déjanté que les deux premiers. Donc, ça part sur de bons auspices.
Oui, tout à fait. Pixel, toi, t'étais... tu connaissais No More Heroes, puis d'une manière générale, tu penses quoi de l'approche de Nintendo vis-à-vis des indépendants?
Alors, No More Heroes, moi, j'ai fait les deux hein, sur Wii.
D'accord.
J'ai fini les deux jeux, donc je connais No More Heroes. Mais bon, Suda51, je le porte pas vraiment dans mon cœur, quoi. Je trouve qu'il est quand même assez spécial. Il profite un peu des largesses des gens qui financent ces jeux pour faire un peu n'importe quoi avec, donc... Le mec est taré. Bon, on est d'accord, il est taré.
Bah, c'est pour ça qu'il est aimé en même temps. Parce que bon, c'est vrai que No More Heroes, le gameplay, c'est pas le plus profond de l'univers non plus. Un No More Heroes, t'y joues plutôt pour le côté complètement what the fuck du truc, quoi, en fait.
Voilà. Le problème, c'est que techniquement, derrière, après, ça suit plus parce que No More Heroes sur Wii, c'était pas, oh, si t'aimes les slideshows, ça va être bien.
Oh, je te trouve un peu gonflé.
Non.
Bah pour un jeu Wii, moi je trouve pas qu'il soit honteux quoi en fait.
Non mais je veux dire, pas graphiquement, je veux dire techniquement parlant, c'est pas super bien optimisé. Il y a des ralentissements de partout. Je peux en fait lui donner le crédit sur le fait que le mec tente des choses originales, donc c'est bien qu'il y ait un peu d'originalité dans le jeu vidéo japonais de temps en temps. Qu'on n'ait pas toujours des suites. Mais je n'apprécie pas trop le mec, j'arrive pas à trouver les mots, mais
t'es pas fan de son travail en fait.
Voilà, c'est que je suis pas fan quoi.
Après c'est spécial hein, c'est t'aimes ou t'aimes pas je pense hein. Ouais. Clairement.
Le problème c'est que comme tout No More Heroes est basé sur le fait d'adhérer ou non au trip.
C'est ça.
Comme le gameplay derrière est pas non plus hyper transcendant, hein, faut être honnête,
ouais.
Tu te fais chier, quoi. Si t'adhères pas au trip, tu te fais chier, très clairement, voilà. Donc, ouais, moi, ça me paraît pas non plus déconnant, quoi.
Pourtant, j'ai fini les deux jeux, hein.
Ouais, ouais.
Mais j'ai pas adhéré à son délire, quoi. Son délire, après, moi, j'aimais aussi le catch, hein. Lui, il est fan de catch, je comprends très bien. Mais il est trop...
Grandiloquent, peut-être?
Voilà, son côté grandillon, quand taré, moi j'aime pas.
Il y a le côté perso. Gamin aussi qui fait que qui peut être repoussoir. Hein.
Voilà, c'est un avis personnel. Bon, j'aime
en plus,
pas
il renvoie
côté,
une certaine image de la femme aussi dans ses jeux qui
oui.
peut poser
ouais,
problème.
Ouais, mais il est japonais, donc c'est voilà.
Oui, alors après, j'ai jamais été fan, tu sais, de l'explication culturelle. Ouais, mais c'est normal chez eux. Ah, voilà.
Bon, non, mais c'est on va avoir le. On le sait, enfin, on le sait, enfin, oui. c'est secret pour personne que le Japon est un peu un pays très paternaliste et très machiste.
Oui, non, mais ce n'est pas parce que c'est dans la culture de quelqu'un que tu peux pas lui refaire remarquer à un moment donné que, mec, je trouve pas ça normal parce que, enfin, bref. Bon,
attention,
sinon...
attention, attends, ouais, mais attends, juste pour finir, le fait qu'on retrouve des femmes au Japon dans les jeux de Suda 51, je ne défends pas ça. Hein.
Ah, non, non,
attention.
Non, mais...
J'explique, les raisons, les possibles raisons pourquoi, Suda, fantasme à mort sur des filles, surtout les femmes occidentales blondes, hein, à forte poitrine.
D'ailleurs. Expliquer, c'est déjà excusé, monsieur.
Voilà. Bon. Et voilà. Et pour Nintendo, le fait qu'ils fassent des trucs, ben, c'est normal. Ils... D'un côté, on peut dire, ouais, c'est génial, ils donnent leur chance à tout le monde. Et d'un côté, purement, économique, ouais, ben, ils bouffent à tous les râteliers, quoi. Ils non, essaient non. de capitaliser sur tout, quoi.
Oui, mais ils ont raison.
Comme Sony et Microsoft.
Non, pas Microsoft, non, non, non. pas Microsoft, non. Regarde l'attitude de Microsoft vis-à-vis des indépendants.
Ah bah,
pas
sur
ça,
Xbox One, oui, c'est sûr. Mais,
enfin, Microsoft, ils ont essayé.
Oui, ils ont essayé peut-être à l'époque de la 360, mais aujourd'hui, Microsoft
ouais,
et les indés, c'est zéro, quoi.
C'est ce que je veux dire. À l'époque de la 360, ils étaient à peu près les seuls à le faire. Après, Sony s'y est mis, plus ou moins bien. Maintenant, c'est Nintendo, mais ouais. Voilà, c'est tout.
C'est là que je trouve le lancement de la Switch intéressant, c'est que chaque mois, t'avais un gros jeu, entre guillemets, dans le line-up de sortie de la Switch. C'était entrecoupé de sorties de jeux un peu plus mineurs, entre guillemets, ou de réadaptations de portages indépendants sur Switch. Et là, la concrétisation de tout ça, c'est que, en plus, maintenant, Nintendo se met à l'exclusivité. Évidemment, il bouffe à tous les râteliers, hein, t'as raison, mais c'est aussi une stratégie qui est hyper importante pour eux dans le lancement d'une console, quoi.
Pour l'image, c'est très bon, hein.
Clairement.
Alors, par contre, au risque de faire le roulu de service, je vous avoue que, autant qu'ils financent certains studios indés, tu vois, pour qu'ils leur fassent des exclus très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous avoue que la politique des exclus temporaires, déjà, ça m'agace chez Sony, ça m'agace ouais. tout autant chez Nintendo, quoi. C'est juste ça.
Ils se mettent dans le moule.
Bah, voilà, ça s'appelle l'économie. C'est les stratégies marketing. Qu'est-ce que tu veux?
Par contre, je reconnais qu'ils sont une activité qui est très semblable à ce que faisait Microsoft à une époque, dont je ne me suis jamais expliqué pourquoi ils l'avaient arrêté d'ailleurs. Et c'est étonnant de ma part Nintendo, quoi, parce que ils étaient quand même un peu refermés sur eux-mêmes. Mmh. Je salue le fait qu'ils aient enfin compris que leur console était un support idéal pour les jeux indépendants. Ne serait-ce que par son format d'écran. Et voilà, tous ces jeux sur une console portable, ben j'ai hâte, tout simplement. Quelque chose à ajouter, messieurs ?
Non.
Non.
Ok, eh bien, on va enchaîner, mon cher Morren.
Ouais, oui, décidément.
sur la catastrophe de la semaine. Et la catastrophe de la semaine, c'est Ark Survival Evolved, qui est enfin sorti, et ils perdent pas de temps, mon cher Morren.
Ouais, mais c'est ça. Les mecs ont pas le time. Alors, c'est marrant, hein, à chaque fois que je viens, j'ai l'impression de parler d'Ark.
Bah, tu es le spécialiste d'Ark, hein, Morren.
C'est un peu ça. Mais pour le coup, les mecs ont trouvé une nouvelle façon de me faire parler du jeu, et pas forcément bien. C'est-à-dire que, bon, le jeu est enfin sorti. Alors, il était prévu pour début août, finalement, il a été décalé. Pendant les vacances à fin août, le 29 pour être tout à fait précis, et deux jours après, le lancement en grande pompe, entre guillemets, du jeu sur Steam et d'ailleurs en boîte sur PS4 et Xbox One, le studio Wildcard, donc qui est le développeur du jeu, a annoncé à la PAX qu'il allait y avoir une nouvelle extension, donc un nouveau DLC, pour Ark Survival Evolved. Ça s'appelle, et alors ça c'est, on peut pas l'inventer, hein, ça s'appelle Ark Aberration. Et je trouve ça incroyable.
Ça y est, il est parti, là. Il est parti.
Voilà. Donc, Ark Aberration. L'idée des extensions d'Ark, en fait, c'est de te proposer une nouvelle map, en fait. Une nouvelle map avec des créatures qui sont exclusives à cette map, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles armes, etc., etc., qui pourront ensuite être transférées sur ton arc habituel, on va dire. Voilà. Bon, je vais pas spécialement... L'objectif, c'est pas vraiment de parler du contenu de cette extension, qui d'ailleurs
oui,
est annoncée.
On vous recommande pas spécialement de l'acheter, hein, évidemment.
Non. Mais à savoir qu'elle sort quand même en octobre.
Mmh.
Donc c'est-à-dire que donc il y a sortie du jeu 29 août, extension octobre. Et on se rappelle quand même que le studio Wildcards, donc c'est eux qui ont inventé le DLC pour un jeu en early access. Donc ça c'était l'an dernier. Et on se rappelle du tollé que ça avait fait. On en avait parlé à l'époque. Dans le podcast.
Tu avais même fait une très belle vidéo que je remettrai, tiens, pour ceux qui avaient raté l'affaire.
Oui, c'est vrai que ça résume bien. Et je trouve ça hyper intéressant, le timing de sortie du jeu, ainsi que la lecture des tests qui te disent que au final, c'est pas plus optimisé que ça l'était avant.
Ce qui est un pur scandale, hein, disons-le. Voilà.
Exactement, parce qu'on rappelle que du coup, le jeu est passé à 60 balles. Hein. Aussi, hein, parce que voilà. Et deux jours après, on t'annonce une extension plus un season pass qui est à 40 euros.
Tu avais une théorie, je crois, à ce sujet, mon cher Brandon.
Et du coup, je ne peux que me rendre à l'évidence, c'est que les mecs, apprenant un petit peu de leur erreur entre guillemets de l'an dernier, qui était de faire payer un DLC alors que ton jeu est toujours en early access, ils se sont dit ouais, mais on en a un autre qui arrive. Comment on fait? Ah ben si on veut plus que ça fasse un tollé, qu'est-ce qu'on fait? On sort le jeu.
Voilà, hop, un petit tampon, c'est réglé. Bon, vous voyez, il est sorti le jeu, hein? Il est sorti, la preuve. Vous voyez, il est god. Perché.
C'est assez incroyable. Ben, voilà, je sais pas si c'est être mauvaise langue que de penser à ça, mais clairement, les mecs nous ont habitués à des moves un petit peu particuliers financièrement. Du coup, je ne peux que penser à ça.
Ah, mais depuis qu'ils gagnent du pognon, Ark, c'est sûr qu'ils ont quelques moves un peu particuliers, quoi.
Ark, c'est 5 millions de ventes, pour rappel.
Voilà. Bon, on sera d'accord, je pense, pour dire que c'est du foutage de gueule et que n'achetez surtout pas ce jeu. Voilà.
Mais au demeurant, en fait, le truc, c'est que ça se trouve, le contenu est trop bien. Mais rappelons quand même que le jeu n'est toujours pas optimisé et le jeu coûte 60 balles.
Ouais.
Donc voilà. Je pense qu'on en a fini avec ce cas.
Pour le coup, c'est l'illustration parfaite de l'early access qui tourne mal, quoi. C'est dommage parce que c'est un early access qui avait très bien commencé. Quoi, on peut très bien commencer et finir n'importe comment.
C'est vrai.
Et puis les mecs ont commencé à s'éparpiller, à sortir des trucs, à pas optimiser leur jeu. Et ça, c'est, tu vois, hein, tous les jeux où on te dit oui, ça va être optimisé, oui, ça va être optimisé, et où tu vois pas l'optimisation arriver, au bout d'un moment, il faut commencer à se poser des questions, quoi.
Ouais. Non, mais on voit les priorités, quoi.
Après ça, moi, je ne veux plus qu'on me dise, quand il y a une critique faite sur un early access, oui, mais c'est de l'accès anticipé. Non, non, non. La critique, il faut la faire avant que le jeu sorte, pas après. Parce que quand tu fais ça après, c'est ce qui se passe, t'as Ark, jeu qui sort à 60 balles, pas optimisé, on t'annonce un season pass avec une extension. Ce serait un éditeur qui ferait ça, il se serait brûlé sur la place publique.
Ouais.
Mais là, c'est un indépendant, donc écoute, il n'y a pas de souci, hein, pas de problème. Bref, voilà, un pur scandale. Allez, on va enchaîner. Alors, état des lieux de la VR, HTC est mort. Enfin, ils sont quasiment morts. Apparemment, ils ont quelques petits soucis financiers et ils essayent, de ce que j'ai compris, à se débarrasser du Vive. Bon, HTC, ça fait un moment qu'on sait qu'ils vont pas bien... pas que par rapport au Vive d'ailleurs, donc rien d'illogique. Par contre, on a eu l'arrivée récemment, l'annonce de l'arrivée d'un nouvel acteur, c'est Microsoft. Microsoft donc qui a annoncé ses casques Mixed Reality, encore une appellation marketing. Enfin d'ailleurs, moi je trouve que c'est une appellation marketing qui porte à confusion, parce que moi quand j'ai vu Mixed Reality, je pensais qu'il parlait...
de réalité augmentée.
Du HoloLens, quoi, tout simplement.
Oui.
Et non, en fait, il parlait bien de la réalité virtuelle. Alors, ces casques seront disponibles à moins de 400 €, et surtout, ils ont établi des partenariats pour créer des PC préassemblés qui seront disponibles à partir de 500 €. Il y aura deux gammes de PC, en gros, une qui fera tourner les jeux à 60 images par seconde et l'autre à 90 images par seconde. Prévoyez tout de suite de prendre la gamme qui a 90 images par seconde et qui coûtera un bras, parce que à 60 images par seconde, ça sera le Gerbotron 3000, hein. Donc voilà. Mon seul petit bémol à ce sujet, c'est que, alors, c'est bien que il y ait la distinction 90-60. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu le même bordel que la Steambox, notamment au niveau de la tarification, parce que c'est à partir de 500 balles. Donc ça veut dire que derrière tout le monde fait un peu ce qu'il veut et annonce ce qu'il veut, et j'ai peur que ça soit un peu confusant. Voilà. Des remarques à faire sur le sujet, messieurs ?
Est-ce qu'on peut arrêter en fait avec la avec la réalité virtuelle en fait? Tu sais, j'ai l'impression que tout le monde s'y lance, mais personne fait de cash. Mm. C'est super bizarre. Et il me semble d'ailleurs que Sony a annoncé un nouveau casque moins cher.
Je sais pas, j'ai pas suivi du tout.
Nouvelle version du PSVR moins cher à confirmer, mais je sais pas. En tout cas, dans ce que Microsoft a annoncé, j'ai rien qui me fait rêver.
Le seul truc qui est notable, c'est que contrairement aux autres casques de réalité virtuelle, tu n'auras pas besoin de caméra en fait pour situer ta position dans l'espace. La techno est intégrée dans le casque et ça, c'est toujours un truc de moins installé, quoi.
Oui.
Mais à part ça, c'est pas. Enfin, c'est toujours le même problème. Quid du catalogue. Alors, à noter quand même que ces casques-là devraient être compatibles avec pas mal de jeux sur Steam. Et ça, c'est important.
Bah oui.
Reste à voir la liste des jeux compatibles, hein, parce que ce sera pas tous les jeux. Donc, on attend de voir.
Ouais.
Et sinon, Pixel.
On peut recouper avec ce qu'on avait dit il y a quelques numéros où, enfin, c'est moi qui disais que la VR était peut-être en train de mourir, en tout cas, elle est stagnée. Bah là, on a la preuve que une partie de la VR est en train de mourir.
Bon après, je suis pas sûr que prendre HTC en exemple soit pertinent parce que pour le coup, HTC, ils avaient des vrais gros soucis même avant qu'ils soient dans cette histoire. Hein. Donc.
Oui, mais enfin, je veux dire, c'est l'image révolutionnaire de la VR qui en prend un sacré coup, quoi.
Mais après, si je voulais jouer l'avocat du diable, quand même, c'est pas n'importe qui, Microsoft, quoi. Enfin,
oui.
Quand même. On peut pas dire que c'est en train de mourir quand t'as une grosse boîte comme Microsoft qui se lance maintenant dans le truc,
clairement.
Quoi.
Mais quid, du coup, de la compatibilité Xbox One?
C'est une bonne question.
Parce que, tu vois, à l'époque, moi, quand ils ont annoncé tout ça, je me disais, ça va être comme Sony et la PlayStation et le PSVR. Ils vont faire un casque qui est compatible et que tu peux brancher sur ta Xbox One. Et là, pour le coup, on ne parle que de PC.
Bah, parce que le PC, c'est la priorité de Microsoft, en fait.
Oui.
C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est
ce qui leur apporte de l'argent, c'est Windows 10. C'est clairement ce qu'ils priorisent en ce moment.
Bah, la preuve avec l'annonce de Age of Empires 4 la semaine dernière, là. Windows 10, hein. Ça fait bien chier, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai pas Windows 10. Hein.
Ah, t'as pas Windows 10, toi?
Non, j'ai jamais fait le Switch.
Ah. Oups.
Ouais, oups, comme tu dis.
Ça, par contre, c'est vrai que c'est le move sale que fait à chaque fois Microsoft quand il lance un nouvel OS. Il se débrouille pour avoir un jeu exclusif bien sale, tu vois. Donc,
ouais, c'est ça.
Bon, j'espère juste, sur Age of Empires, que... on sera pas obligé de se taper le Windows Store, hein, parce que autant le projet il m'intéresse, hein, évidemment, parce que j'ai adoré.
Ouais.
En tout cas, les deux premiers épisodes, le troisième j'ai jamais joué, je le confesse.
J'ai jamais joué au 3 non plus. Ouais.
Mais les deux premiers épisodes, c'est des jeux qui m'ont marqué, donc évidemment, tu m'annonces Age of Empire, je suis tout fou. Mais par contre, s'il faut
surtout
se taper
Relic,
le store de Windows, qu'ils aillent se faire foutre. Hein.
Ouais.
Bon, allez, on enchaîne.
Mm-hmm.
Alors, Pixel.
Ouais.
Sega, ils font des conneries en ce moment, je crois.
Ouais, c'est ma lettre d'amour à Sega.
Ah ouais, là...
c'est... Alors, Sega, je les aime bien. Sega, je les aime bien. Parce que, depuis quelque temps, ils sortent leurs jeux consoles sur PC. Donc voilà, ce sont des portages, bon, qui sont parfois bien, parfois un peu moins bien, mais bon, ils sortent sur PC, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et là, ils nous sortent Sonic Mania, en version Steam. Et là, les fans de Sonic tout court, ils se disent « Ouais, c'est génial. En plus, avec Sonic Mania, on a le droit à un jeu gratuit qui est en fait la version émulée du premier Sonic sur Mega Drive. »
Ouais.
Alors, jusque-là, tout va bien. On a envie de se dire « Tout va bien, Sega fait plaisir aux fans de Sonic sur PC, il sort Sonic Mania, blablabla. » Mais les joueurs PC, ils se disent, mais j'aimerais bien y jouer en offline, parce qu'on est sur Steam et qu'on peut y jouer en offline avec la plupart des jeux Steam. Et là, ils peuvent pas. Alors, ils font leur recherche, puis ils découvrent que, mais il y a des nouveaux dans Sonic Mania PC. Mais sur la page Steam, il n'y a pas marqué qu'il y a des nouveaux.
Donc, qu'est-ce que veut faire le joueur PC? Il veut se faire rembourser. Sauf que, il peut pas se faire rembourser, parce que comme on lui a offert un jeu, c'est pas possible. Parce que sinon, il faudrait désactiver le jeu, ou je sais pas. Donc, ils peuvent pas se faire rembourser. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se vengent.
Vengeance!
Vengeance, et ils ont lancé une campagne de bashing sur Sega.
Voilà, sur un peu mérité, hein. Du review bombing, hein, comme d'habitude. Donc, voilà. Ils sont allés avec leurs petites mains, ils ont mal noté le jeu, et puis voilà. Et puis, le jeu est sorti du top des ventes de Steam. Alors, il y sort, il re-rentre, il y sort, il re-rentre ces derniers jours. De toute façon, quand t'as un jeu qui vient de sortir et qui est dans le bas du top des ventes de Steam, ça en dit long, ça veut dire que il va vite disparaître. Et donc, belle réussite, Sega. Hein. Bravo, hein, bravo. Des nouveaux vous a permis de faire plein de ventes. Hein. GG les mecs. Il vous a tellement bien protégé que vous n'allez pas en vendre. Non, mais bravo. C'est génial.
Non, c'est marrant. S'il y a un mot qui pourrait résumer 2017, c'est review bombing, quand même.
C'est ça.
C'est un peu l'année où ça a un peu éclos, tout ça.
C'est l'année où les joueurs ont dit fuck off. Ouais. Voilà. Non, mais après, c'est mérité, quoi. Là, pour le coup, autant je disais la semaine dernière par rapport à Battle Brothers que c'était pas justifié, que les développeurs avaient une bonne raison pour le faire, le simple fait qu'ils aient pas de thunes pour continuer à développer le jeu après la sortie, mais le jeu était propre, donc il y avait pas de raison spéciale de bâcher le jeu. Là, pour le coup, je veux dire, t'as un éditeur qui se fout ouvertement de ta gueule en incluant un DRM et en le mettant pas sur la page du truc et en disant « Ah non, tu peux pas te faire rembourser, je te fais un jeu gratos. » Bon, après, les gens, fallait pas précommander, hein. On est d'accord. Juste que ça serve de leçon, hein, ne précommandez pas. Voilà. Pour ceux qui râlent maintenant, vous savez que il ne faut pas précommander parce que tu peux te trouver dans ce genre de situation. Je dis juste ça, enfin, moi je dis rien. Bon, des nouveaux, on en a déjà parlé, hein. Je pense pas qu'on va pas répéter ce qu'on a déjà dit sur le sujet. Ce que je constate, en tout cas, c'est que, ben, c'est efficace. Ouais, mais le jeu se vend pas. Très efficace. On va enchaîner, mon cher Pixel, on va parler du jeu du moment. Enfin, c'est plus une petite preview vite fait, c'est Next Day Survival. Alors, Next Day Survival, pour faire simple, c'est un jeu venu de l'Est. C'est un jeu qui ressemble très fortement à un Stalker en multijoueur, un peu Roots, quoi, on va dire. Bon, tu me diras, Stalker, Roots, c'est un peu un oxymore, quoi. ça va le faire.
C'est dans sa nature.
Voilà. Et bah tout simplement, qu'en penses-tu? Tu y as joué une vingtaine d'heures. Quel est l'état du jeu? Est-ce qu'il y a des spécificités intéressantes? Voilà. Qu'as-tu à dire sur le jeu, mon cher Pixel?
Alors, ce sera pas un test que je vais faire. C'est un jeu en early access, donc c'est juste
on fait un point.
Une découverte.
Voilà.
On fait un premier point, c'est une découverte. Parce que là, on enregistre début septembre et il y aura une grosse mise à jour qui va arriver à la mi-septembre, normalement, qui va apporter de nouvelles armes, de nouvelles quêtes, une nouvelle map aussi. On refera un deuxième point à ce moment-là, enfin, je veux dire, en temps voulu. Alors, Next Day Survival, j'ai joué 24 heures en tout. Pas 24 heures d'affilée, hein. Je te rassure. Les 24 heures en tout. C'est, on va dire, Daisy qui rencontre Stalker.
D'accord.
C'est Daisy dans le principe que c'est un survival en monde ouvert, où tu rencontres d'autres joueurs humains ou pas. Tu peux jouer tout seul, tu peux jouer en solo, ou tu peux jouer dans un mode où personne ne peut se tirer dessus. Enfin, les joueurs humains ne peuvent pas se tirer dessus.
D'accord. Il y a des serveurs PVE, tout simplement.
Voilà. Il y a des serveurs PVE, il y a des serveurs où tu peux jouer en solo, il y a des serveurs où là c'est free for all, où tout le monde se tire dessus, et il faut pas aller dessus, je tiens à le dire tout de suite, parce que ces serveurs-là sont déjà envahis par les hackers, qui se full stuff dès le début, et qui te butent au point de spawn, parce que les points de spawn sont mal foutus, tu spawns juste devant ton premier QG, on va dire ça, on va dire ça comme ça, et les mecs, bah ils t'attendent juste là, et puis ils te butent. Et tu réapparais, et puis te rebutes, puis tu réapparais, puis te re-rebutes, et puis comme ça, juste pour te faire chier. Ou alors ils utilisent des hacks pour courir plus vite, ou pour se téléporter, ou pour être full stuff, et juste pour te faire chier. Voilà. Donc, ce que je conseille avant tout, c'est de jouer soit tout seul, soit de jouer sur les serveurs en JCE, où personne ne peut se tirer dessus. Au moins, vous serez tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de retours négatifs des joueurs qui se font avoir par les hackers, et les développeurs ont essayé de faire quelque chose, et puis là, ils ont fait un petit coup de pute quand même, parce que dans leur communication officielle, ils ont relégué ça à la société qui s'occupe du système anti-triche.
Mmh. Ouais, alors quand tu commences comme ça, ça commence mal. Hein.
Ça commence mal. Ils ont renvoyé la balle maintenant, donc les mecs, ils s'occupent plus de ça. Mmh. Donc je vous conseille solo ou JCE. Comme ça, personne ne se tire dessus. Mais pour revenir au jeu, donc si je dis c'est Daisy, C'est parce que graphiquement, ça ressemble à DayZ. C'est vraiment un jeu de l'Est, de Russie, d'Europe de l'Est. Ça fait très Stalker. Dans les visuels, mais aussi dans la technique, parce que vraiment graphiquement parlant, techniquement parlant, c'est moche.
Alors que ce soit moche, c'est une chose, mais est-ce que ça tourne correctement déjà?
Alors c'est un jeu en early access et c'est un jeu qui demande énormément de ressources.
Pour un jeu dégueulasse, c'est quand même un peu fort du café, quoi.
Voilà, parce que j'ai une GTX 970 avec 4 Go de mémoire vidéo et en mettant tous les détails à fond, le jeu me bouffe 3,5 Go. Bon, c'est un jeu en early access, l'optimisation, il devrait la faire une fois que le jeu sera sorti. Enfin, j'espère. Je l'espère. Enfin, si le jeu sort un jour aussi, hein.
Ouais, ouais.
Bon, il coûte pas cher, il coûte 9 € pour l'instant. Ouais. Donc,
Bon, par contre, en termes de mécanique, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? S'il y a des choses intéressantes.
Alors, c'est un jeu basique de survie où vous commencez, il y a 3 factions. Ça se passe en Russie, dans un monde post-apocalyptique, parce qu'il y a eu la... je crois que c'est une sorte de guerre nucléaire ou une catastrophe nucléaire, quelque chose comme ça. Il y a la faction des neutres, la faction des civils et la faction des bandits, des méchants, quoi. Tu commences devant le QG des neutres. Tu as poil, tu as un marcel et un caleçon, et c'est tout. Il y a un cycle jour-nuit, des fois tu peux commencer le jour, des fois tu peux commencer la nuit. Si tu commences la nuit, tu vas te cailler les roubignoles, il faut vite que tu rentres dans la base, te réchauffer auprès du feu, et ensuite tu peux vadrouiller dans toute la base parce que il y a des spawns de stuff dans toutes les bases du jeu.
Ouais, donc pour le moment ça fait très DayZ quoi. Enfin
ça fait très DayZ.
Ce qui d'ailleurs n'est pas très crédible vu le contexte, mais
voilà, ce spawn, il est aléatoire, ça peut être des armes, ça peut être des de la nourriture, des vêtements ou parfois bah t'as rien, donc tu dois te débrouiller. Le jeu inclut un système de faim, de soif, de maladie. Si tu bouffes de la nourriture avariée, tu vas tomber malade, donc il faut trouver des médocs. Tu peux tuer des animaux, pour l'instant des animaux, il y en a que 2, il y a que le loup et l'ours, et ensuite tu peux les dépecer pour avoir de la nourriture. Mais qui est cru, tu peux la manger, mais c'est cru. Tu peux la chauffer auprès du feu pour récupérer plus d'énergie. Ou pour la revendre, parce que y a des vendeurs, tu peux leur revendre ton stuff pour te faire de l'argent et redépenser ton argent par derrière pour mieux te stuffer. Il y a du craft. Pour l'instant, tu peux crafter qu'une seule arme.
Alors, tu sais que quand tu dis craft, moi, ça me fait peur parce que j'ai des poussées d'urticaire en mode Ark Survival Evolved, tu vois, ou tous ces jeux-là où tu vas miner pendant des heures un truc. Rassure-moi, c'est pas comme ça.
Non. C'est-à-dire que tu récupères un bâton de bois, un tube en métal, du scotch, et t'as un menu de craft où tu vas faire du drag and drop, tu vas les assembler, tu cliques sur crafter et il va te crafter une arme.
Voilà.
Tu vas pas prendre ta hache et couper du bois. Non, ça, tu peux pas le faire. Okay. Enfin, en tout cas, pour l'instant, tu peux pas le faire. À part survivre, il y a quelques missions au début.
J'ai une question très simple, si tu veux. Ce qui fait le charme de Stalker, c'est la zone.
Voilà.
C'est l'environnement, c'est le côté mystérieux du jeu, surtout. Tu sais, où t'as les mutants qui apparaissent à cause
de... Dans le jeu, il n'y a pas de mutants.
Il n'y a pas de mutants, il n'y a rien du tout.
Il n'y a pas de mort-vivant, il n'y a pas d'infecté.
Tu me brises le cœur, là, Pixel.
Pour l'instant, il n'y en a pas, mais récemment, j'ai vu dans les commentaires des retours des joueurs, ils demandent aux développeurs de mettre des mutants.
Bah, en tout cas, qu'il y ait une ambiance, parce que Stalker, fondamentalement, je veux dire, par rapport aux jeux de survie d'aujourd'hui, quand tu prends les mécaniques brutes, comme ça, c'est très basique, quoi. C'est, je me balade, je tue des trucs, mais... Ce qui fait le charme de Stalker et surtout de Call of Pripyat, c'est donc la zone, c'est-à-dire toutes les bestioles que tu vas croiser dedans, qui sont des bestioles, genre tu sais, t'as les mutants qui deviennent transparents et qui t'attaquent dans les roseaux, t'as aussi la zone en elle-même qui a des phénomènes naturels, par exemple les tempêtes de la zone, tu sais, où tu commences à entendre ton détecteur qui commence à s'affoler et t'as la radio qui s'allume qui dit « Stalker, mettez-vous à l'abri, il y a une tempête qui va se déclencher et tout », et là tu cours comme un dératé à travers un champ pour te mettre à l'abri, parce que si t'es dehors au moment où ça se déclenche, bah t'es mort. En fait, Stalker, c'est la survie, mais c'est la survie contre l'environnement. Un environnement qui est de surcroît mystérieux. Et c'est pour ça qu'on aime jouer à Stalker, parce que la zone est hypnotisante, si tu veux. Et de ce que tu me dis, pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça, en fait.
Bah, le côté Stalker, il est surtout dans la direction artistique. Tu as les mêmes maisons, les mêmes bâtiments, les mêmes armes, les mêmes vêtements. Aussi, parce que t'as pas mal d'armes, t'as pas mal de vêtements dès le début du jeu, en fait. T'as vraiment un bon éventail d'équipements dès le début du jeu. et ils vont en rajouter dans les mises à jour à venir. L'environnement, il est comment dire, il est pas si mystérieux que ça, en tout cas pour l'instant.
Ah, tu me vends pas du tout du rêve, la Pixel, hein, je te le dis tout de suite.
Bah non, je vends pas du tout du rêve, parce que le jeu, il est en early access, donc on en est qu'au début. Il existe, en fait, une anomalie, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une anomalie, mais, à plusieurs endroits dans le jeu, tu as des environnements qui sont remplis, en fait, de gaz, vert fluo, extrêmement toxiques. Et donc, tu es obligé de porter une combinaison spécial plus un masque
pour explorer. D'accord.
Un masque à oxygène pour explorer.
Et les quelques quêtes qu'il y a de dispo, elles sont intéressantes ou...
Alors comme j'ai dit tout à l'heure, tu commences dans le camp des neutres, qui est en fait le camp en fait des débutants. Tu es obligé de passer par là de toute façon, et ils vont te donner des quêtes pour t'apprendre en fait les mécaniques de survie. Et une fois que t'as fait toutes ces quêtes, en fait le jeu il va te dire bah maintenant il faut que tu choisisses entre le camp des pillards ou le camp des civils. Si tu choisis le camp des pillards, en fait, il n'y aura pas vraiment de mission. Tu seras libre de faire ce que tu veux. Et si tu choisis le camp des civils, ils vont te redonner des nouvelles missions par derrière. Et c'est à peu près tout pour l'instant.
Et la scénarisation des quêtes, c'est bien écrit ou c'est très basique?
Non, c'est extrêmement basique. C'est les premières quêtes. Les premières quêtes, c'est genre il y a du stuff en dehors du camp des neutres. Tu dois les récupérer, sauf que le stuff, il est protégé par un loup. Donc tu dois tuer le loup avec ton couteau. Et puis récupérer ça, c'est des quêtes FedEx, hein. D'ailleurs, c'est pas très bien traduit. Alors, il y a une version française, et la traduction française est assez spéciale, on va dire, quoi. Il y a quand même quelques formules de phrases qui sont assez bizarres. Mais on joue, j'ai envie de dire, pour l'ambiance, les musiques sont bonnes. Les musiques d'ambiance, moi, je les trouve excellentes. Il y en a pas beaucoup, il y a très très peu de pistes musicales en jeu.
Les sensations en flingue sont bonnes ou pas?
Non, c'est pas bon. Tu sens pas trop le recul. Ouais, t'as l'impression d'avoir une espèce de pistolet à billes, quoi.
Ah, putain.
Pour l'instant, c'est pas très, très bon. On en est vraiment au tout début du développement et les développeurs, je pense qu'ils en sont conscients. Ils devraient régler ça un jour ou l'autre. Enfin, j'espère pour eux. Parce que c'est pas vraiment génial. La carte paraît petite quand tu la regardes de haut comme ça en entier. Mais une fois que t'es dedans, en fait, elle est vraiment très grande. Mais il y a quand même beaucoup de vide. Parce qu'il y a très peu d'av... Je te dis, il y a que l'ours et le loup. Et il y a très peu, bah voilà. Enfin, si, il y a le lapin. Le lapin, c'est l'animal le plus rare du jeu. Tu le croises extrêmement rarement, mais il y a pas de, tu te fais rarement attaquer par un ours ou par le loup, par exemple.
Ouais, alors après, honnêtement, là, je te dis, tu me vends pas du tout du rêve. Tu m'as complètement refroidi sur le jeu, là, en fait.
Bah ouais, mais je te dis la vérité, mais...
Parce que, enfin, si tu veux, moi, tu me parles d'ours, de loup, de lapin, enfin, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est le stalker, c'est pas ça, quoi. Ça fait pas rêver, quoi. Alors, pour le coup, c'est utile d'avoir ta critique, parce que quand tu vois, on va dire, les trailers, etc., on te vend du stalker, quoi, si tu veux. Mais ce que tu me décris, là, en fait... Alors peut-être que esthétiquement ça ressemble à Stalker, mais l'ambiance de Stalker, certains aspects de Stalker, ça y est pas du tout pour le moment en tout cas.
Bah la direction artistique, c'est du Stalker.
Ouais, mais bon, la direction artistique, c'est un poulième de ce qui fait le charme de Stalker, quoi.
Ouais, mais ça te met dans l'ambiance. Moi, ça m'a mis là dans l'ambiance et ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé qu'il y ait pas plus que ça en tout cas pour l'instant. Parce que ça va arriver par la suite, ils vont rajouter des choses. Mais la musique, j'ai bien aimé aussi. Mais c'est les deux seules choses vraiment ultra positives que je pourrais donner dans le jeu. Parce que en dehors de ça, tu as les mécaniques classiques du survival, qui sont les mêmes partout dans tous les jeux. Et sans quoi, techniquement parlant, oui, c'est un jeu à moins de 10€. Donc il faut pas s'attendre à des merveilles.
Bon, je pense qu'on a tout dit. Alors... Pour le moment, verdict, attendez. C'est pas le moment pour prendre le jeu, je pense. Hein. Très clairement, ça a l'air d'être à l'état prototypal. Ça peut être prometteur, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de grosses mécaniques. Donc, je veux dire, il y a tellement de jeux qui sortent que, voilà, faites-vous plaisir sur ces jeux-là. Surtout qu'en ce moment, je crois que il y a des modes qui sortent pour Stalker, pour compléter le jeu, notamment sur Call of Pripyat, etc. Donc, si vous êtes en manque de Stalker, dirigez-vous plutôt vers ça. Voilà. Pixel, on te redemandera ton avis quand le jeu aura bien avancé.
Oui.
Je t'avoue que là, Je suis complètement froid là, je suis froide.
Ah oui, mais je peux te dire que les seules choses que j'ai aimées, c'est la direction artistique et les musiques, parce que le reste, c'est... Je me suis fait un peu chier. Là, j'ai fait 24 heures de jeu, j'arrête d'y jouer pour l'instant, et j'attends la sortie de la prochaine mise à jour avec la nouvelle map, et je redonnerai mon avis à ce moment-là.
Ok, on va s'arrêter là pour cette semaine, messieurs.
Yes.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Salut.